Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous et merci. Merci à ceux qui nous accompagnent et prennent en charge en cette période de crise sanitaire, infirmières, médecins, aides-soignantes, biologistes. Merci et bravo au personnel éducatif, aux employés des commerces, des entreprises de transport, des sociétés de nettoyage. Merci d'être là à nos côtés. Et depuis le début de la pandémie, on insiste sur les autres troubles et maladies qui peuvent provoquer de graves complications du Covid-19. Maladies chroniques, atteintes cardiaques, co-infections que l'on retrouve chez les patients hospitalisés en réanimation. Mais s'il est un état qui fragilise l'organisme face à toute agression, c'est bien la malnutrition. Et les Nations Unies avertissent que la pandémie de coronavirus risque d'aggraver la situation sur ce plan. L'insécurité alimentaire concernait l'an dernier 135 millions de personnes dans 55 pays, dont 73 millions sur le continent africain. Certaines projections font craindre un doublement de ces chiffres pour l'année en cours, en raison de l'impact économique de la pandémie et des problèmes d'approvisionnement qui s'ajoutent aux facteurs climatiques. Secteur informel à genoux, travailleurs pauvres passant sous le seuil d'autonomie financière, hausse des prix. On voit à Kigali, à Dakar, mais aussi en région parisienne, des distributions de vivres pour venir en aide aux plus démunis. Le programme alimentaire le souligne, le programme alimentaire mondial. Avant la pandémie, chaque jour, 21 000 personnes mouraient dans le monde à cause de la faim. Alors, qu'en sera-t-il demain? Quel sera l'impact de la crise dans la crise? Et l'équipe de Priorité Santé, toujours partagée, mais unie, partagée entre confinement et les locaux de RFI. En studio, on retrouve Didier Bleu aujourd'hui derrière la console en compagnie de son comparse Didier Chérouse. On communique par écran vidéo interposé. Malnutrition, coronavirus, état des lieux, témoignages, questions et surtout les réponses de nos invités. Docteur Pierre Micheletti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin de santé publique, président de l'ONG Action contre la faim, enseignant à la faculté de médecine et à Sciences Po Grenoble. Et tout à l'heure, nous retrouverons en ligne de République centrafricaine le professeur Jean Chrysostome Gaudy, directeur et pédiatre au complexe pédiatrique de Bangui. Et puis, je le disais, en distribution d'aide alimentaire, y compris en région parisienne, nous donnerons la parole à Mohamed Meshmash, porte-parole du collectif Assez le Feu, actif sur la commune de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons notre séance anti-sédentarité en temps réel avec le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Aujourd'hui, côté équipement, on aura besoin d'un petit tapis de sol et de pas mal d'énergie.
Priorité santé sur RFI.
Crise sanitaire, période inédite, on ne cesse de l'entendre hein, si on écoute la radio, si on allume la télé. Crise déclarée dans un contexte déjà alarmant sur le plan de la malnutrition. Si l'on regarde les chiffres de l'année passée, de 2019, et qui vient donc surajouter son propre impact. Alors avant d'aborder la question des risques, de ce qui pourrait se passer demain, on va regarder d'abord du côté de l'explication. Aujourd'hui, avec la pandémie, comment cette crise alimentaire s'aggrave-t-elle, docteur Pierre Micheletti?
Les humanitaires le savent bien, la malnutrition, et en particulier chez les enfants, en ce qu'elle peut induire une baisse de l'immunité et des protections, va entraîner un sur-risque de mortalité prématurée. On estime que les enfants porteurs de sous-nutrition sévère ont 12 fois plus de chances de décéder avant l'âge de 5 ans que des enfants bien nourris.
Alors depuis le début de cette crise, on parle des risques associés sur le plan bien sûr des maladies, les comorbidités, l'hypertension, les cardiopathies, l'obésité, la déficience immunitaire. Et finalement, docteur Micheletti, on évoque assez rarement la malnutrition. Pourtant, cette malnutrition, c'est vraiment une comorbidité. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle finalement assez peu? Est-ce que c'est parce que pour l'instant, les régions les plus affectées, ce ne sont pas des zones de très grande tension sur le plan de la sous-nutrition, justement?
Absolument. Les premiers pays qui ont fait parler d'eux sur le Covid-19, que ce soit la Chine, puis des pays européens et ensuite le continent nord-américain, sont des pays dans lesquels la question de la sous-nutrition chronique ne se pose pas. Dès lors, la problématique qui a occupé toute la scène médiatique, c'est les situations d'urgence dans les hôpitaux et la réanimation. Alors que dans beaucoup de pays en développement, cette crise supplémentaire va survenir sur des fragilités sous-jacentes. On aura sûrement l'occasion d'en rediscuter. Et parmi ces fragilités, la question cruciale de la sous-alimentation.
Avec aussi des profils démographiques très différents. On a vu justement dans ces pays du Nord, les enfants peu affectés, mais il y a justement ces maladies spécifiques aux enfants, notamment sur le continent africain. Si on regarde les cas graves de paludisme, si on regarde par exemple le risque de la drépanocytose, on en a parlé lors d'une précédente émission, et donc cette malnutrition, ne pas avoir une quantité de nutriments, de qualité de ces nutriments, ça fragilise réellement les organismes, y compris des enfants et peut-être surtout des enfants.
Alors là, oui, la pratique nous montre que des maladies considérées comme bénignes dans des pays développés, comme la rougeole, qui en Europe est exceptionnellement mortelle chez les enfants, sont des maladies redoutables dans les pays en développement et dans les pays en crise, de telle sorte que une des principales urgences qu'on peut redouter, par exemple, dans un camp de réfugiés en situation humanitaire, c'est une épidémie de rougeole dont on sait qu'elle aura des conséquences souvent dramatiques pour une population. Voilà, typiquement une maladie infectieuse qui se trouve considérablement aggravée par la sous-nutrition quand elle existe au préalable.
Si on comprend bien aujourd'hui le risque, c'est que la pandémie altère justement toute la situation, la sécurité alimentaire, et que les enfants ne succombent pas finalement à ce risque de Covid-19, mais à d'autres affections qui seraient jugées ailleurs beaucoup plus bénignes.
On retrouve le parallèle sur le continent africain, pour parler de l'Afrique, qu'on retrouve dans les pays européens. En France, on l'a vu, l'attention soudaine sur le Covid-19, les admissions de patients aux urgences et en réanimation qui présentaient cette pathologie, s'est accompagné d'une certaine négligence de la population à l'égard d'autres maladies pourtant graves, cardiovasculaires, diabète déséquilibré. Et la crainte des urgentistes français aujourd'hui, c'est éventuellement un redémarrage de l'épidémie de Covid, mais une espèce de choc en retour de ces maladies négligées et qu'on voit réapparaître maintenant dans les services des urgences.
Qui ont été prises en charge avec trop de retard. Docteur Pierre Micheletti, vous restez avec nous. Comme chaque jour, on donne la parole à nos auditeurs et nos auditrices. Sur ce sujet, Adama Diop, en ligne du Sénégal, souhaite s'exprimer. Car si effectivement on parle beaucoup du surpoids au nord, des risques associés à l'obésité, il existe, on l'a bien compris, d'autres risques et d'autres complications à la clé.
Bonjour. Je suis Madame Adama Diop Faye, spécialiste en santé publique et ancienne directrice du programme alimentaire mondial au Libéria pendant la crise Ebola. J'estime actuellement que autant l'obésité est considérée comme un facteur de comorbidité pour Covid-19 en Occident, autant les carences en vitamines et minéraux essentiels, notamment la malnutrition par déficit, doit aussi être considéré comme un facteur de comorbidité en Afrique. Quand je pense actuellement au Sénégal, où l'anémie, par exemple, est un problème de santé publique, reste un problème de santé publique, je me dis que les patients du Covid-19 doivent être traités en gardant en tête le profil nutritionnel, car ils peuvent présenter des complications dues à la malnutrition.
Complications dues à la malnutrition dont parle votre consoeur ouest-africaine. Alors bien sûr, il y a ce contexte général dans les régions du Sud, les tensions saisonnières, la soudure, l'impact du réchauffement climatique. Et puis cette crise sanitaire avec un point très important, bien sûr, c'est ce secteur informel. Quand on mange au jour le jour, quand on gagne sa vie, son pain, son riz au jour le jour, docteur Pierre Micheletti, ça va très mal avec les couvre-feux dans le meilleur des cas et le confinement dans le pire des cas.
Absolument, parce que dans les contextes que vous évoquez, il y a un effet immédiat du confinement quand il est strict, c'est l'impossibilité de gagner sa vie, surtout quand on est engagé dans des activités et des ressources liées à l'économie informelle. Le corollaire est immédiatement que une famille qui est confinée, qui ne peut plus se livrer à ses activités informelles, se trouve en déficit financier et dans l'incapacité de faire face à ses dépenses basiques pour se nourrir. Il y a, à Kinshasa, me rapportait un collègue africain, un dicton qui dit « À Kinshasa, tu ne sors pas, tu ne manges pas ». Donc, tout est dit sur les liens forts et immédiats qu'il y a entre confinement, incapacité de travailler et effet sur la nutrition.
Effet domino, risque d'épidémie dans un contexte aussi sanitaire défaillant, on le souligne chaque jour dans cette émission. On vous retrouve en ligne de République Centrafricaine, professeur Jean Chrysostome Gaudy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre, directeur du complexe pédiatrique de Bangui, la Centrafrique hein, qui n'a pas attendu le Covid-19 pour que la malnutrition affecte une large proportion des enfants centrafricains. Est-ce que l'on connaît, professeur, la proportion justement de ces petits qui souffrent de formes aiguës et de formes sévères de malnutrition ?
Forme aiguë, hein, globalement, on est autour de 6%. Mmh. Mais non, la forme sévère que nous admettons dans les formations sanitaires sont autour de 1,5. Hein. Le poids critique, finalement, est sur les formes chroniques, où on est à plus de 42%. Et derrière ça, il y a toute la situation qu'on a connue sur le plan militaire, tous ces
sécuritaire.
Conflits.
Mmh. Exactement. Est-ce que, et justement, vous êtes en première ligne, aux premières loges, pour comprendre ce que fait sur l'organisme d'un enfant cette malnutrition, justement au niveau des pathologies que vous prenez en charge. Tout à l'heure, on évoquait avec, bien sûr, le docteur Micheletti, ce risque, par exemple, pour la rougeole. Qu'est-ce qu'il y a comme autre, on va dire, maladie qui se passerait bien pour un enfant bien nourri, qui devient quasiment un risque vital pour un enfant dénutri ?
Écoutez, c'est d'abord que ces enfants-là ont une susceptibilité accrue aux infections. Il y a ça. Maintenant, on a des troubles métaboliques hein, qui nous font peur quand ils arrivent en premier, notamment le manque de sucre, hein, l'hypoglycémie, quand ils arrivent. Et puis après, chez eux, des situations d'anémie qui deviennent très vite sévères. Il y a l'implication de beaucoup de facteurs, mais chez eux, nous créons dans les services de les voir décompenser très très vite. Aussi, dans la prise en charge, il y a des choses que nous créons, les problèmes de déshydratation qui surviennent également chez ces enfants-là. C'est beaucoup de situations que nous voyons au quotidien, en routine chez d'autres enfants, qui deviennent très graves chez eux.
Alors la situation, on va dire, au long cours est difficile, mais est-ce que vous avez déjà des éléments de recul pour évaluer l'impact de cette crise particulière ? On l'a dit bien sûr, la Centrafrique, avec tout le contexte de violence, d'instabilité, de déplacement de population que vous avez connu, mais là, cette fois-ci, avec cette crise du coronavirus, est-ce que vous avez du recul, professeur Gaudy ?
Du recul ? Oui, parce que à partir de tout ce qui s'est passé ailleurs, on voit comment ce virus entre dans les pays après la flambée, etc., etc. Rien que sur ça, on a du recul. On doit faire attention. Ensuite, après, quand on voit ce qui se passe entre janvier et maintenant, dans nos services, janvier, on avait 130 enfants admis dans le service. Et là, au mois de mars, nos statistiques nous donnent quasiment le double. On est autour de 230 enfants qui sont admis dans le service de dénutrition. Nous prenons, hein, je précise que nous prenons les formes sévères. Mmh. Hein. Voilà.
Donc c'est vraiment un indicateur. Vous avez doublé les admissions pour les formes sévères de malnutrition. Donc voilà. C'est vraiment significatif.
Alors, on voit que on peut très bien faire le parallèle avec tous ces problèmes de fermeture des frontières, des limites aujourd'hui autour des frontières, etc. Vous voyez, il y a tout ça et qui fait que aujourd'hui, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes effectivement de nutrition, des problèmes d'alimentation et qui se posent. Et on voit très vite, là, en arrivant au mois de mars, le nombre d'enfants admis dans nos services qui augmente.
Professeur Jean Chrysostome Gaudy, docteur Pierre Micheletti, on va donner tout de suite la parole à un autre auditeur, c'est Martin. Il a enregistré ce message de Bukavu en République démocratique du Congo. Il nous explique que les conséquences de la pandémie pour lui et sa famille, il a 5 enfants.
Bonjour RFI, bonjour Priorité Santé, c'est Martin Mdoumbi à partir de Bukavu, République démocratique du Congo. Le confinement dans mon pays, pour moi-même, c'est une nouvelle épreuve. Moi, personnellement, Covid-19 a suspendu mon travail et si l'on considère la manière dont les prix des denrées alimentaires continuent à galoper sur le marché, par exemple, un sac de farine de 25 kilos qui coûtait 14$ et est revenu à 18, un sac de riz de 25 kilos qui coûtait 16 qui est allé à 20, si on considère le taux d'échange du dollar qui est passé de 1600 à 1800, il y a eu de comprendre comment les économies familiales ont été perturbées. Pendant ce temps, on n'attend ni aide humanitaire, ni aide du gouvernement. On vit de sa propre poche. On vit de ses efforts personnels et chacun chez soi. Au regard de tout ça, j'étais obligé de négocier avec ma famille de réduire le nombre de repas. On est passé de 3 à 2. Ceci n'est pas passé sans conséquence parce que ça bouge sur la qualité et sur la quantité. Et nous devons couvrir la période entre les différents repas avec des petites croquettes. Merci.
Un témoignage qui en dit long sur le désarroi de ce père de famille. Obligé de sauter des repas, docteur Pierre Micheletti, vous intervenez dans des dizaines de pays avec l'ONG Action contre la faim. Ce que l'on entend avec ce témoignage de Martin, c'est que finalement des personnes qui vivaient, qui vivotaient, qui n'allaient pas si mal, aujourd'hui sont en train de tomber dans l'extrême pauvreté, dans la malnutrition.
Exactement, c'est un témoignage qui dit l'essentiel. Action contre la faim est présent en République démocratique du Congo et c'est précisément ce type de témoignage qui dicte les stratégies d'intervention de notre ONG. À la fois, il nous faut nous préoccuper de l'épidémie de Covid-19 et apporter une aide pour essayer d'endiguer sa dissémination. Mais nous ne devons pas perdre de vue le cœur de métier d'Action contre la faim, qui est précisément la sécurité alimentaire. Et on voit bien que ce que nous décrit cet auditeur, c'est que il y a le confinement avec donc un effet sur les ressources des familles, mais l'épidémie a entraîné une baisse de la production. Une hausse des prix, des circuits de commercialisation et de transport qui sont affaiblis, donc l'approvisionnement des marchés se trouve malmené. Et à cela, il faut rajouter aussi que certains pays, gros exportateurs de céréales, dans un réflexe de protection, ont diminué leurs exportations. Et vous avez là tous les ingrédients internes, externes, qui expliquent la flambée des prix et au bout du bout, les conséquences directes dont on vient d'avoir un témoignage très explicite.
Population qui manque de moyens dans des contextes sanitaires aussi. C'est le cas en RDC, c'est le cas en République centrafricaine. Professeur Jean Chrysostome Gaudy, des contextes sanitaires sous pression et ceux de longue date. Est-ce que ça vous inquiète aujourd'hui? Est-ce que vous lancez un appel pour dire aidez-nous, qu'est-ce qu'on va faire?
Alors, il faut être inquiet dans le contexte du Covid. On a vu les pays qui ont des ressources et qui ont peiné. À plus forte raison des pays comme les nôtres, Je crois que c'est la solidarité internationale qui va jouer aujourd'hui, parce que un message que cette épidémie a lancé au monde entier, c'est que la vie est précieuse. Et par ailleurs, à l'envers, la vie est précaire. Précaire pour tout le monde. Donc il faut jouer de la solidarité et se rappeler à cette histoire de l'alignement de tous les pays. Donc il faudrait faire en sorte que les plus faibles rehaussent leur niveau de réaction et tiennent le coup. C'est le message qu'il faut donner. C'est, voilà, tiennent le coup.
Égalité voilà. Face à la vulnérabilité.
Exactement, voilà.
On va vous retrouver tous les deux dans quelques instants hein, pour la suite de Priorité Santé après de nouveaux témoignages.
Priorité Santé sur RFI.
Avec une autre illustration de ce qui se joue, ce qui se noue ces dernières semaines sur notre planète. Crise sanitaire, crise alimentaire et illustration à 20 km seulement du centre de Paris, d'où je vous parle, hein, de chez moi, puisqu'on se rend à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. On vous retrouve, Mohamed Mechmache, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous n'êtes pas loin d'ici, vous êtes le porte-parole du collectif Assez le Feu, association qui travaille sur le lien, le dialogue entre les habitants et les institutions des banlieues. Aujourd'hui, changement d'activité. Expliquez-nous, Mohamed Mechmache, comment est-ce que, aujourd'hui, ces dernières semaines, vous venez en aide à la communauté ?
Ben écoutez, vous savez, dans notre rôle avec Assez le Feu, on a toujours été dans une manière d'être dans l'interpellation et de pointer toutes ces inégalités, ces injustices. Donc quand on a vu que le Covid-19, cette crise sanitaire, allait effectivement toucher un peu tout le monde, mais simplement on a fait le constat que dans certains territoires, d'autres sont encore touchés beaucoup plus fort qu'une partie de la population qui, elle, peut se permettre de faire du télétravail ou peut se permettre effectivement de bien gagner sa vie. On est dans des territoires où les gens malheureusement sont des travailleurs pauvres qui ne gagnent pas bien leur vie. Certains sont au chômage partiel, d'autres malheureusement sont confrontés à effectivement aller quand même travailler parce que ce sont ces personnes qui aujourd'hui dans la chaîne de distribution sont les femmes de ménage, les chauffeurs des RATP, sont les agents de sécurité, les chauffeurs-livreurs, enfin, tous ceux qui aujourd'hui, malheureusement, sont très peu visibles, sont devenus visibles. Et on a aussi aujourd'hui une population qui clairement est en demande de régularisation, qui au début se débrouillait tant bien que mal pour essayer de trouver du boulot par-ci par-là, non, sans ressources. Plus se rajoute à ça la question du logement, du confinement, des logements insalubres, des logements où malheureusement les gens sont passés à plusieurs alors que les mètres carrés ne conviennent pas en temps normal. Les enfants qui ne vont plus à l'école, donc automatiquement ceux qui allaient manger à la cantine pour 1 euro, c'est plus le cas. Donc vous êtes plus nombreux à la maison, vous avez plus de charges d'électricité, d'eau, et on sait que ça allait impacter les familles. Donc nous avions dès le démarrage interpellé le politique et notamment les ministres pour leur expliquer que lorsque le discours de M. Macron a dit qu'on était en guerre, qu'il y avait un état d'urgence et quoi qu'il en coûte, on avait dit tout simplement, bah écoutez, c'est bien de donner 300 milliards aux entreprises, mais si vous ne donnez pas à ceux qui aujourd'hui font les beaux jours de ces entreprises-là, c'est-à-dire les petits gens qui vivent dans ces territoires-là, ça ne va pas le faire, quoi.
Donc, est-ce que vous avez vu les choses évoluer au fil des semaines, c'est-à-dire vous avez, on va dire presque anticipé, vous avez compris tout de suite qu'il y avait un risque, vous avez mis les choses en place, et après au niveau des personnes qui sont venues à vos distributions, comment ça a bougé ?
Écoutez, ça a bougé assez rapidement, je veux dire, on a commencé une première action, on a eu 200 personnes, la deuxième, vous savez, ce que je dirais souvent, c'est le téléphone arabe, ça va très vite, la deuxième 450, et là on a atteint les 1000, plus de 1000 personnes qui viennent récupérer des denrées alimentaires, avec ce que je vous dis, des gens qu'on ne voyait pas, des gens qui malheureusement, c'est une souffrance, des gens qui ont une dignité, qui malheureusement viennent, baissent la tête, on le sent bien, cette souffrance, on voit bien la détresse qu'il y a, et on est encore une fois dans une action solidaire, mais en même temps c'était pour aussi interpeller nos responsables politiques, quoi, en expliquant qu'il y avait quand même une fracture, et cette fracture malheureusement, ce sont ceux qui déjà au temps normal, les vivent depuis très longtemps, chose qu'on a déjà dénoncée depuis très longtemps, mais qui malheureusement aujourd'hui, cette crise sanitaire nous renvoie à une forme de tsunami sur cette crise sociale et humanitaire de ces personnes qui vivent là et qui malheureusement ne gagnent pas très bien leur vie et essayent de s'en sortir tant bien que mal.
D'où vient la nourriture que vous distribuez avec votre association Mohamed Meshmash?
Alors écoutez, on a eu un soutien au démarrage dès le début quand on a lancé l'action. La Fondation Abbé Pierre nous a soutenus, la ville où nous sommes nous a mis à disposition les locaux pour la logistique, parce qu'il fallait aussi à un moment ou à un autre avoir la bonne logistique pour éviter que personne se mette en danger. Donc on a eu ce soutien-là. Ensuite on a eu des gens du quartier, quand je dis du quartier, c'est des jeunes qui ont réussi un peu leur vie dans le bâtiment, ainsi de suite. Ils se sont regroupés, ils ont été à Rungis acheter des palettes. On a un entrepreneur breton qui nous a vu suite à l'article du Monde, qui a été touché, qui nous a envoyé une quinzaine de palettes. On a commencé à constituer ce réseau de fil à aiguille avec des personnes qui clairement se manifestent de plus en plus et apportent leur soutien. Voilà, on a honnêtement, là où on aimerait effectivement toucher, ben, j'ai commencé à en toucher enfin une. C'est la grande distribution, c'est un Carrefour qui nous a permis de venir récupérer quelques denrées alimentaires. Mmh. Un transporteur qui lui aussi est parti à Rungis, a rempli deux camions et est venu nous livrer. On a Danone aujourd'hui qui clairement nous a ouvert ses frigos pour pouvoir nous donner une fois par semaine tout ce qui est laitage. Donc en fait, on s'est débrouillé, je vous dis, c'est de la débrouille. On a juste fait marcher nos réseaux. Et c'est là la force de frappe qu'on a, c'est justement ces réseaux qu'on a constitués. C'est ces petites associations de quartier qui font énormément, contrairement à ce qu'on peut penser, en pensant que ce sont celles qui souvent ont de grands noms, ils ont pignon sur rue. Mais croyez-moi que pendant cette période-là, elles n'étaient pas là et elles étaient fermées. Voilà, donc nous, on a essayé de prendre le relais, comme on organise chaque année des maraudes, où on organise souvent des repas avec des mamans qui clairement cuisinent. Et puis le soir, on va sur Paris, on donne aux sans-papiers, aux migrants. Donc pour nous, il n'y avait pas de c'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste là où par contre on a persisté, c'est qu'on fait deux distributions par semaine. Et croyez-moi que les queues sont toujours aussi longues, si ce n'est pas plus. Et on a tout simplement fait en sorte que d'autres familles qui viennent des villes alentour puissent aussi bénéficier un peu de ces colis alimentaires. Voilà.
Et puis, il y a beaucoup de Mohamed Meshmash, je vous interromps. On entend ouais. Vraiment petite main, grand cœur. J'ai envie de vous poser la question. Et du côté des oreilles, qu'est-ce que vous racontent ces gens? Est-ce que finalement, ils reconnaissent qu'on est dans une situation pas comme les autres et qu'ils assument cette crise? Ou est-ce qu'il y a encore de la culpabilité, une forme de honte d'en être arrivé là, où on a dépassé ce stade?
Ils ont une forme de... Ben, ils le dépassent parce qu'ils n'ont pas le choix.
Bien sûr.
Pas où les enfants ne mangent pas. Où, voilà. Il y en a même certains qui se sont résignés à ne pas payer leur loyer parce qu'ils n'auront pas les moyens de le faire. Mm-hmm. Donc il y a aussi derrière l'après. Et l'après, ça sera des assignations dans les tribunaux pour non-paiement des loyers, ou ainsi de suite. Mais ça, ces familles, je vous assure, ils sont debout parce qu'il faut qu'ils tiennent la face, parce qu'ils ont aussi des enfants et qu'à un moment ou à l'autre, je pense que... avec tout ce qu'ils subissent et tout ce qu'ils vivent déjà, sans chercher le côté mirabiliste ou quoi que ce soit. Hein. Moi, franchement, je suis ravi et heureux de partager des choses avec ces personnes-là, parce qu'en temps normal, c'est ceux qui en ont le moins qui participent souvent à cet élan de solidarité. Et ces familles-là qui sont d'habitude solidaires, se retrouvent eux-mêmes à venir chercher des colis alimentaires, c'est sûr que pour eux, c'est pas facile. C'est ce que je vous dis, c'est une vraie souffrance dans les visages quand on discute avec certaines personnes. Ils nous expliquent qu'en temps normal, ils ne seraient jamais venus, mais que là, ils n'ont plus le choix. Donc, on voit bien qu'honnêtement, il y a ce côté de souffrance, qu'ils vivront mal psychologiquement. Et il faut quand même discuter de cette question de comment se fait-il que ces personnes qui vivent là n'arrivent pas, avec un salaire, à pouvoir servir leur famille, sachant que souvent, ce sont des gens qui sont payés honnêtement au SMIC. Et malheureusement, pour certains, qui clairement, même si une prime va tomber là, à partir du 15 mai, tout le monde n'aura pas le droit à cette prime. Il faut savoir que ceux qui dépassent de 20 ou 30 euros n'ont plus le droit à des prestations sociales.
Là aussi, et ce ne sont pas les applaudissements qui remplissent les assiettes.
Et ce ne sont pas les applaudissements qui remplissent les assiettes, je suis d'accord avec vous.
Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à Charlie Dupiot qui a préparé cet entretien. Professeur Jean Chrysostome Gaudy, comment vous réagissez quand vous entendez justement qu'à deux pas de Paris, qu'aux portes de Paris, il y a ces distributions qui touchent de nouvelles populations ici en France? Quand on voit tout ce qu'il y a à faire chez vous en République centrafricaine, on se dit comment on va trouver tous les moyens pour venir en aide à ces gens?
Ce monsieur est tout simplement un modèle pour tous les êtres humains aujourd'hui au XXIe siècle. C'est d'abord ça, à l'entendre, c'est ce que j'ai pensé. Maintenant, retournant dans mon pays, je me dis, est-ce que c'est possible? Est-ce que nous allons avoir des gens de bonne volonté pour pouvoir faire ça? Et comment un État qui n'a déjà pas de moyens pourra s'organiser pour faire ça? Parce que potentiellement, nous avons tout pour en arriver là. Quand on va restreindre les déplacements, quand on va, avec la flambée, hein, tout ce petit monde qui travaille au jour le jour, ce qui s'est passé, le témoignage qu'on a entendu du côté de Congo démocratique, la région centrafricaine n'est pas à l'abri. Mm-hmm. Et si cela devait arriver ici, comment nous allons faire? Je vous assure. Et déjà en entendant ce témoignage-là, et vraiment je vous jette des fleurs pour aller là et nous faire entendre donc qu'on doit réfléchir à cette manière de faire, mais très très rapidement, que tous les Centrafricains puissent adhérer à cette idée d'EIA, et on reste dans la vigilance, et ça reste une épidémie qui surprend tout le monde chaque jour. Regardez ce qu'on dit par rapport aux enfants, regardez les formes atypiques qui se présentent sur le Lancet chaque jour. Je fais de la littérature, je vois ce que ça nous donne. Alors demain, quel sera son visage ici en République centrafricaine? Je m'interroge. Et sur le côté socio-économique, qu'est-ce que ça va nous donner? Tous les secteurs doivent être concernés.
Une véritable inquiétude, mais justement, professeur Gaudier, on a vu l'initiative personnelle, on va dire la générosité, la solidarité, les relais sont là pour venir en aide aux plus démunis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus compter sur les États, on ne peut plus compter sur ces États, on le sait, qui sont même des fois eux-mêmes démunis. Sur quel levier agir, vous, par rapport à la communauté, vous comptez sur qui demain et même aujourd'hui?
Déjà sur ce que nous sommes en train, les leçons que nous sommes en train de tirer sur la surprise, hein, parce que les pays économiquement développés ont été surpris. Mmh. Déjà ça c'est une bonne chose pour nous. Ensuite maintenant, nous avons toute la communauté internationale qui est là, hein, parce que vous savez, il y a cette initiative là ici en Centrafrique conjointe pour le suivi de marché. Avec tous les grands pays qui nous accompagnent, c'est d'abord sur eux, et qui savent quelle est l'évolution du panier du citoyen centrafricain, commencer la réflexion là. Mais à quelle vitesse va ce virus? Est-ce qu'on a le temps encore de réfléchir? Ça, c'est une grosse inquiétude. Donc, en fait, c'est un travail de réflexion, mais continu. Déjà, le ministère de la Santé travaille, mais tous les secteurs d'économie, mais avec la communauté internationale qui se retrouve aujourd'hui, chacun doit agir, prendre l'expérience par-ci, par-là, parce qu'on a tous les pays du monde qui sont représentés aujourd'hui en région centrafricaine. C'est une chance, hein, venant de partout. Et donc, chacun doit aller capitaliser dans l'expérience de son pays pour ramener ici. C'est un peu de l'utopie, mais c'est vers ça qu'il faut aller.
Il faut croire, docteur.
Voilà.
Il faut croire. Docteur Pierre Micheletti, on l'a entendu avec ce témoignage en Seine-Saint-Denis, la crise qui fragilise l'ensemble des populations. Et puis, il y a toujours les autres risques sanitaires, parce que c'est bien ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a aussi ces maladies qui sont un petit peu mises entre parenthèses, mais qui sont toujours là et qu'il va falloir traiter. Et puis, il y a ces autres risques liés aux problèmes d'alimentation, ces autres risques qui sont toujours là et auxquels fait face une ONG comme la vôtre, Action contre la faim.
Oui, enfin, les deux témoignages sont éloquents. Première réaction peut-être pour dire que dans une grande ONG internationale comme Action contre la faim, on est attentif à réagir à nos portes. Et donc on s'est engagé en région parisienne, à Marseille et à Bordeaux, sans pour autant baisser la garde sur les actions dans les pays en développement ou dans les pays en crise, parce que justement, on part du postulat que nous ne serons pas les seuls à agir en France, et que des mécanismes complémentaires et d'autres organisations pourront aussi s'impliquer. mais que dans le contexte actuel, il peut y avoir une rupture d'équilibre dans les pays en développement auxquels il faut rester très attentif. Donc ça, je voulais le préciser. Ça veut dire que, et le témoignage du collègue pédiatre en atteste, il y a le Covid-19 qui peut se déployer à Bangui, mais il y a aussi tout le cortège des problèmes qu'il rencontrait jusqu'à présent, d'enfants sous-nutris qui arrivent, porteurs de paludisme grave, porteurs de diarrhée, de déshydratation dramatique. Donc il faut conserver une attention sur les différents aspects. Je suis pas aussi optimiste que le collègue de Bangui sur la mobilisation internationale. Hein. Quand je vois que sur l'enveloppe financière annuelle de l'aide humanitaire, on peine à récolter 30 milliards de dollars de fonds gouvernementaux et qu'il en manque chaque année 10 pour les dernières années, et que en première évaluation, les Nations Unies concernant la crise de Covid-19 estime qu'il faudrait libérer assez vite 500 milliards de dollars de dons. Je suis très circonspect sur le risque de double discours entre une générosité que tout le monde appelle de ses voeux et la capacité réelle de fournir cette aide, surtout dans des économies des pays riches qui sont elles-mêmes très malmenées par le Covid-19. Donc,
votre message, c'est quoi, docteur Micheletti? C'est quoi? C'est vigilance? Vous craignez que les regards se portent ailleurs, que les priorités soient différentes et que finalement, la malnutrition que déjà on avait du mal à financer, on l'oublie un petit peu dans cette lutte contre le virus?
Oui, mon message, c'est il faut se mobiliser sur la crise actuelle, premier point. Deuxième point, il faut ne pas baisser la garde sur les problématiques qui existaient avant le Covid-19. Et troisième point, les grandes ONG ont un rôle à jouer pour réinterpeller les États dans leurs responsabilités financières, parce que ce n'est pas les petits donateurs individuels des grandes ONG qui vont réunir les sommes dont il est question aujourd'hui. Donc à côté du travail de terrain, il y a de notre part un nécessaire rôle d'interpellation politique des États donateurs pour que nous ayons les moyens de relever les défis sanitaires et du Covid-19, mais de tous ceux qui précédaient, y compris la sous-nutrition.
Professeur Jean-Chrysostome Gaudy, le mot de la fin, on disait tout à l'heure, il est encore trop tôt pour avoir toutes les données sur l'impact de l'épidémie, surtout dans un pays comme le vôtre, qui jusqu'à présent a été peu touché en termes de cas. Est-ce que vous menez des recherches justement pour vous préparer dans cette optique, pour avoir demain des éléments de compréhension, d'évaluation de cette maladie du coronavirus?
Mais d'abord, permettez-moi de remercier mon confrère, parce qu'il a tout résumé. Maintenant, on a le regard tourné vers ces ONG-là, et elles sont là. On attend de travailler, que le gouvernement travaille avec eux pour des plaidoyers vrais. Maintenant, on revient à ce qui se passe ici en République centrafricaine. On est d'abord sur des indicateurs. Que nous donne aujourd'hui le profil des infections respiratoires aiguës depuis le mois de janvier? Nous sommes en train de suivre la prévalence. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura le travail déjà rassemblé pour voir la tendance un tout petit peu et par rapport aux autres années, voir à ce moment-là l'impact du Covid-19. On a des problèmes de tests en ce moment. Ça commence à monter un tout petit peu en puissance avec l'aide qui est donnée à la République centrafricaine. Donc on ne va pas faire des dépistages systématiques chez les enfants. Donc on est obligé de regarder juste cette tendance-là pour avoir une certaine idée. D'autant plus que chez l'enfant, et tout ce que disait mon confrère, quel sera le poids du Covid-19 dans le cadre du sepsis chez les enfants qui sont dénutris? C'est aussi l'autre angle sous lequel on va essayer de regarder. Et nous sommes à pied d'œuvre, pour l'instant. Il y a quelques essais qui vont faire sur l'Artemisia, mais ça, c'est le doyen de la faculté de médecine en train de discuter du protocole.
Et certainement, peut-être qu'on va s'y prêter. Est-ce qu'on mettra les enfants dans cet essai point d'interrogation. Voilà en gros hein, ce que nous faisons dans le secteur de santé, hein, qui est moins rêveur que cette histoire de lever les fonds, hein, finalement, dont parlait mon confrère.
On en est encore au pas à pas, on en est encore aux prémices. On vous remercie infiniment tous les deux d'avoir participé à Priorité Santé. Merci à vous, hein, professeur Jean Chrysostome Gaudy, directeur du complexe pédiatrique de Bangui en République centrafricaine, de veiller sur tous ces enfants. Et merci à vous, docteur Pierre Micheletti, président de l'ONG Action contre la faim. Notre séance anti-sédentarité maintenant dans Priorité Santé, notre rendez-vous du lundi avec le docteur Jean-Marc Sen. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Caroline.
Médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, vous aidez nos auditeurs à rester en mouvement alors que ces temps-ci on a beaucoup moins l'occasion de sortir dehors. Séance d'activité physique en temps réel. Alors aujourd'hui, comment on peut baptiser cette séance ?
Bon, on va faire une séance cardio et puis un peu d'abdos pour terminer. Le premier exercice, c'est le jumping jack. On va parler anglais. Alors, c'est quoi ? C'est un exercice où on va faire des sauts sur place, où on va écarter les jambes sur place. On est donc debout avec ses baskets. Au moment où on écarte les jambes, on lève les bras pour aller toucher les mains au-dessus de la tête. Et puis ensuite, on fait un deuxième petit saut où on va rapprocher les jambes et mettre les bras le long du corps.
Voilà. Côté équipement, on a besoin de quoi ?
Alors, d'avoir de bonnes chaussures, un sol bien sûr qui n'est pas glissant, et c'est tout. Et être en tenue bien sûr souple et ample.
Alors on va s'y mettre, on a compris la position, et comme d'habitude, hein, maintenant les auditeurs le savent, c'est vous qui donnez le rythme, et on vous suit, on y va.
On part pour le rythme, et 1, et 2. Et 1, on écarte les jambes, on lève, et 2. Et 1, et 2. 1, et 2, et 1, et 2, on revient, 1, et 2, le premier groupe a terminé, on continue, et 1, et 2, 1, et 2, et 1, le deuxième groupe vient de terminer, et 1, et 2, 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, voilà, on vient de terminer la première session. Il faut bien penser à rester bien droit, gainer les abdos contractés, voilà, et bien inspirer quand on fait un saut, bien sûr.
Le souffle, c'est essentiel hein, pour garder le rythme.
Le souffle est essentiel pour garder le rythme. Et puis, on va faire, bien sûr, une deuxième série, voilà, un petit peu dynamique.
Est-ce qu'après un exercice comme ça de saut, il faut là encore récupérer ou on peut recommencer tout de suite ?
Alors là, comme c'est un exercice, il faut récupérer une trentaine de secondes. Et puis ensuite, on peut recommencer la deuxième série.
Alors on se remet en position et vous décomptez pour les auditeurs, c'est parti.
Allez, on respire bien et 1, on écarte les jambes et 2, on resserre. 1, on lève les bras, 2, on resserre. 1, on lève, 2, on resserre. 1 et 2. Et 1 et 2. Et 1 et 2. Et 1 et 2, le premier groupe a terminé. 1 et 2 et 1. Et 2, fini pour le deuxième groupe. Et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, on peut souffler. Voilà, ça y est, on a fait notre deuxième série.
Ça y est, premier exercice terminé. Le cœur va mieux, c'est ça ?
Voilà, le cœur va mieux. Normalement, ça a emmené un petit peu notre souffle. Peut-être on transpire légèrement. Et puis, on a dynamisé l'ensemble des muscles du corps.
Donc, on a terminé ce premier exercice, on a fait nos petits bonds, nos petits sauts. Et maintenant, on passe à quoi, docteur Sen ?
Un exercice d'abdominaux qu'on appelle le toucher-talon. On est allongé sur le dos, on a besoin d'un petit tapis au sol ou d'une natte, tout simplement. Et donc, on est allongé sur le dos, on a les pieds au sol, donc les genoux pliés. Les bras sont tendus sur le côté du corps et on va contracter les abdos, c'est-à-dire très, très légèrement relever les épaules, et on va chercher à s'incliner sur le côté pour aller toucher ses talons, alternativement côté droit, puis le côté gauche. Et on va faire comme ça 10, 14 ou 20 répétitions en fonction du groupe.
Alors on se met en position, on s'allonge et comme d'habitude, vous nous donnez le tempo. On laisse juste un petit moment pour s'installer. Et voilà, on y va, c'est parti.
Et c'est parti. Et on va sur le côté droit, puis le côté gauche. Le côté droit, puis le côté gauche. Ça fait deux. Le côté droit, puis le côté gauche. Le côté droit, puis le côté gauche. On va à droite, puis à gauche. À droite, puis à gauche, on souffle bien. À droite, à gauche, le premier groupe a terminé. On continue le côté droit, puis le côté gauche. À droite, on souffle quand on s'incline, on inspire et on souffle à gauche. À droite, puis à gauche, on inspire. À droite, on souffle, puis à gauche. Le deuxième groupe vient de terminer. À droite, à gauche. À droite, à gauche. À droite, puis à gauche. Et une dernière, à droite, puis à gauche, le dernier groupe a terminé. Voilà.
Et là, quand on a fait cet exercice, si ça tire un peu, ça va tirer dans quelle partie du corps?
Eh bien, au niveau du ventre, au niveau des abdominaux et particulièrement des obliques. Sur les côtés, en fait, du ventre, ce sont les obliques qui ont travaillé. Donc, le côté droit et le côté gauche vont plutôt avoir travaillé.
Alors là, on respire, on reprend son souffle, on prend, des grandes inspirations et on se retrouve dans quelques secondes pour notre toute dernière série. Nous y voilà, notre dernière série d'exercices en votre compagnie, toujours Dr Sen. Vous nous donnez le rythme et on recommence à compter, c'est parti.
On s'incline sur le côté droit, puis le côté gauche, le côté droit, puis le côté gauche. À droite, on souffle, on inspire, puis on s'incline à gauche, on souffle. On inspire, on s'incline à droite, on inspire, on s'incline à gauche. On inspire à droite, on inspire, on expire à gauche. On inspire, on expire à droite. On inspire, on expire à gauche. Le premier groupe a terminé. On continue, droite, inspire, gauche, expire. Inspire, droite, expire. Inspire, gauche, expire. Inspire, droite, expire. Inspire, gauche, expire. Le deuxième groupe a terminé. Inspire, droite, expire. Inspire, gauche, expire. Inspire, droite, expire. Inspire, gauche, expire. Inspire, droite, expire. Inspire, gauche, expire. Le troisième groupe a terminé.
Voilà, tout le monde transpire. J'ai osé ce jeu de mots avec cette rime riche. Merci beaucoup, Dr Sen. Je ne sais pas comment vous faites toujours pour vous y retrouver, mais c'est le principal. Nos auditeurs vous suivent en rythme et ça permet de rester très tonique. Merci infiniment pour ces exercices. Coach Priorité Santé, médecin en plus, ça ne gâche rien. On vous retrouve la semaine prochaine, Jean-Marc ?
Et absolument, à lundi prochain.
À lundi prochain, au revoir. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est tous à maquer Ophélie Lassène, Juliette Brault, Didier Bleu et Didier Chéroux. Je vais y arriver demain. On va parler du sommeil. J'ai besoin de bien dormir, de retrouver le bon rythme en cette période où nos repères sont bouleversés. Et bien sûr, nos invités pour répondre à toutes vos questions. On se retrouve à 9h10, temps universel. À demain. D'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.